Bon, nous continuons dans notre étude sur la théologie réformée systématique. On est rendu à la leçon 8. Ce soir, nous allons voir comment faire de la théologie et comprendre que c'est un exercice spirituel. Alors, on va examiner ce soir les 10 prérequis spirituels pour faire de la théologie. Alors, le théologien G.I. Packer parle de la théologie dans ces termes. Il dit: toute théologie est aussi spiritualité. Il explique: si notre théologie n'anime pas la conscience et n'adoucit pas le cœur, elle endurcit en fait les deux. Si elle n'encourage pas l'engagement de la foi, elle renforce le détachement de l'incrédulité. Si elle échoue à promouvoir l'humilité, elle alimente inévitablement l'orgueil. Ici, nous voyons à la fois l'opportunité et le danger de faire de la théologie. Alors, qu'est-ce que la théologie requiert de nous spirituellement pour l'étudier, faire de la théologie de façon sérieuse, de façon productive, de façon qu'elle va porter des fruits. Donc la réponse est au moins 10 choses. Il y en a fort probablement plus que ça, mais l'auteur que j'utilise en identifie 10. Alors on va les reprendre une par une, on va les regarder sommairement et on va voir que dans le fond, si on veut faire de la théologie de façon sérieuse, il faudrait que chacune de ces choses-là soit présente dans nos vies quotidiennes. Alors, la première, c'est que le premier prérequis, c'est d'abord d'être un disciple de Christ. Même si ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés à étudier et à approfondir leurs connaissances en théologie, dans le but de l'enseigner, tous les chrétiens devraient s'y intéresser. Parce que notre théologie modèle notre comportement dans la vie quotidienne. Le pasteur américain R.C. Sproul disait que tous les véritables chrétiens sont en fait des théologiens. Alors, la formation des premiers théologiens commença avec le commandement de Christ à ses disciples lorsqu'il leur dit, Matthieu chapitre 4, verset 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. On peut regarder un autre verset dans Marc, chapitre 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Plus tard, lorsque les prêtres juifs demandèrent à Pierre et à Jean de leur rendre des comptes, ils s'émerveillèrent de ce que les prédicateurs pleins de hardiesse n'avaient pas reçu de formation dans les écoles rabbiniques. Mais ils notèrent, par exemple dans Actes 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Une authentique relation personnelle avec le Seigneur Jésus est indispensable pour faire de la théologie convenablement. Le mot grec pour disciple est mathétès, qui signifie étudiant ou apprenant. Cependant, être un disciple de Christ est énormément plus large que seulement écouter ou étudier des enseignements d'un maître. Le mot disciple implique toujours l'existence d'un attachement personnel, qui influence toute la vie. Le disciple se doit d'assimiler l'esprit et le caractère du maître par la soumission à son instruction et par l'imitation de sa conduite. On va regarder deux passages, un dans Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et Luc 14, verset 26 et 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Si vous aspirez à devenir un théologien, ou si vous croyez que vous en êtes un maintenant, posez-vous la question suivante. Suis-je un fidèle disciple de Jésus-Christ? N'accordons jamais le titre de théologien à une personne qui n'est pas un véritable disciple de Christ. Le deuxième prérequis, c'est dépendre de l'œuvre médiatoriale de Christ. Commençons par aller voir un passage dans Colossiens au chapitre 2, les versets 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tout comme nous avons reçu le Christ, en lui faisant confiance en tant que notre médiateur, nous devons marcher en lui en continuant à exercer la foi dans son travail de médiation en tant que notre grand prêtre, notre prophète et enseignant en chef, et aussi notre roi éternel. Le travail d'un théologien est d'exercer sa foi en Christ. La Bible entière parle de Christ et de son œuvre de salut. Un passage qui nous confirme cela, c'est Luc 24, versets 44 à 47. Puis il leur dit, « C'est lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Christ est celui qui révèle Dieu et Christ est celui qui le fait connaître. On va regarder trois versets qui sont dans Jean, chapitre 1, le verset 1, le verset 14 et le verset 18. Commençons par le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La théologie est aussi une œuvre de guerre spirituelle. Et les théologiens n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes. Ils doivent donc tirer leur force du grand roi pour proclamer sa parole, qu'on appelle l'épée de l'esprit, pour vaincre le malin. Regardons quelques passages qui vont dans ce sens. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Un autre passage d'Éphésiens 6 qui nous rappelle qu'on est en guerre spirituelle, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Un autre passage d'Éphésiens, chapitre 4, versets 10 et 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Toute la théologie chrétienne tourne autour de l'idée de Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. « Car je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Martin Luther disait que la seule personne digne de porter le titre de théologien est celle qui voit la gloire de Dieu à travers les souffrances de Christ à la croix. Il disait, « La vraie théologie et la reconnaissance de Dieu sont dans le Christ crucifié. » On a aussi le passage dans Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » On passe au troisième prérequis, qui est la recherche continuelle de l'illumination divine par la prière. Autrement dit, on ne peut pas vraiment faire de la théologie sérieusement sans passer par la prière. Éphésiens, chapitre 1, versets 17 et 18. Paul, il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Nous devons nous débarrasser de notre orgueil intellectuel et de notre autosuffisance. Jean Calvin disait, c'est pourquoi vous devez vous débarrasser de tout orgueil et aspirer à la compréhension de la part de Dieu, vous reconnaissant incapable d'aspirer assez haut pour juger correctement de l'œuvre de Dieu et vous en tirer profit jusqu'à ce qu'il ait donné une vision spirituelle céleste. Nous qui sommes aveugles ne pouvons rien voir du tout jusqu'à ce qu'il nous ait ouvert les yeux. Et nous sommes guidés et gouvernés par la révélation de son Saint-Esprit. Le chrétien a l'immense privilège d'avoir le Saint-Esprit pour l'enseigner. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le théologien se doit donc de prier pour de la sagesse et implorer l'aide de Dieu. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » On va regarder aussi quelques versets dans le psaume 119 qui est particulièrement riche pour nous enseigner la façon dont on se doit d'agir avec la parole de Dieu. Donc, le psaume 119, les versets 18, le verset 27 et les versets 33 et 34, qu'on va regarder le verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Verset 27. « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Et versets 33 et 34. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Nous devons prier pour que Dieu nous éclaire personnellement. Mais nous devons aussi prier pour que le Seigneur élimine ceux qui vont écouter nos enseignements. Très important de se souvenir de cela. Quatrième prérequis, nous devons étudier la parole avec tremblement. On va aller voir la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ésaïe, chapitre 66, verset 2. On va lire le même verset, mais dans deux versions différentes. On va la lire dans la version Louis II, 1910, et aussi dans la version David Martin. On va voir, parce que c'est important de la lire dans les deux versions. « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Et la version David Martin, « Car ma main a fait toutes ces choses, et c'est par moi que toutes ces choses ont leur être, dit l'Éternel. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est affligé, et qui a l'esprit brisé, et qui tremble à ma parole. » Nous devons donc recevoir la parole avec douceur, obéissance et humilité. Jacques, chapitre 1, versets 21 et 22. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et aussi, le psaume 25, verset 9, nous rappelle que Dieu va donner des grâces de compréhension des Écritures aux humbles. Il dit, psaume 25, verset 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Rappelons-nous continuellement que Dieu nous voit lorsque nous étudions sa parole. Proverbe chapitre 5, verset 21, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » La voie de l'Éternel est pleine de puissance et de majesté. Cinquième prérequis, la soumission à sa parole qui est pleine d'autorité. Romains chapitre 6, versets 17 et 18. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et dans le livre des psaumes, le chapitre 19, les versets 7 à 9. On se rend, je pense qu'on va aller un peu plus loin, on va aller jusqu'au verset 10. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon, qui a vécu de 1834 à 1872, disait de la parole de Dieu, « Elle ne contient aucun mélange d'erreur qui la souille et aucune tache de péché » qui ne l'a pas eu. Anselme de Canterbury, qui a vécu, lui, de 1033 à 1109, 1109, c'est pas d'hier, disait ses sages paroles sur la Bible. Il dit, « Je n'essaie pas, Seigneur, de pénétrer ta hauteur infinie, car je ne peux pas faire correspondre ma compréhension avec elle. Mais je désire, dans une certaine mesure, comprendre ta vérité, comme mon cœur croit et aime. Car je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. » Et sixième prérequis, on se doit de cultiver un appétit pour la parole de Dieu. Là, on va regarder toute une série de versets qui nous parlent de cela, qui est important. Acte 20, verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Psaume 119, verset 131. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 et 3. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et deux versets encore dans le psaume 119, 112 et 127. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. et verset 128, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Et on a aussi dans le Proverbe, chapitre 2, versets 4 et 5, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Le septième prérequis est endurer les souffrances pour l'amour de la parole de Dieu. Le théologien fidèle connaîtra la souffrance, c'est certain. On a la preuve de cela dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 2 et 3, et aussi versets 8 et 10. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et les versets 8 à 10, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Encore une fois, dans 2 Timothée aussi, chapitre 3, les versets 10 à 12, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance je n'ai pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Un autre passage dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le théologien fidèle à la parole de Dieu nage à contre-courant, et sa fidélité sera coûteuse, mépris, perte d'amis et bien d'autres choses. Psaume 119, versets 141 à 143. Il dit, « Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. » Verset 142, « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » 143, la détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Et encore dans le psaume 119, versets 46 et 92, je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Verset 92, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Huitième prérequis, poursuivre une théologie saine par une vie d'obéissance et de sanctification. Paul avertit des dangers de l'étude de la théologie sans amour et sans sanctification. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, il nous dit, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors, on sait que un début de Dieu avec les saints, c'est de nous amener à la ressemblance à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 12. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La sanctification est essentielle à une compréhension correcte des choses divines. Le plus grand obstacle à une bonne doctrine est la rébellion du cœur et non le manque d'intelligence intellectuelle. Deux passages, Jean chapitre 7, versets 16 et 17, Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Neuvième prérequis, être un membre fidèle d'une église locale fidèle. Le théologien chrétien ne doit pas vivre sa vie chrétienne en solitaire. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 18 à 25. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, n'ont pas, non, c'est-à-dire n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manque, à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Proverbe chapitre 13, verset 20, Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et deux derniers versets, deux derniers passages, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Hébreux, chapitre 13, verset 17, Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Et dernière, utilisez la théologie comme un carburant pour la louange. Le but ultime pour faire de la théologie est de glorifier Dieu. Le théologien doit poursuivre cet idéal tant dans sa vie privée que dans sa vie d'Église. Psaume 119, verset 164 et verset 171. Verset 164, « Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice, et verset 171, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Notre théologie devrait être une sorte de doxologie, alors que nous élucidons les gloires de notre Seigneur et Sauveur. Le théologien Hermann Witsius, qui a vécu entre 1636 et 1708, faisait l'affirmation suivante dans son œuvre « On the Character of a True Theologian ». Il dit « Par théologien, j'entends celui qui, imbu d'une connaissance substantielle des choses divines, dérivée des choses des enseignements de Dieu lui-même, déclare et exalte, non seulement en parole, mais par tout le cours de sa vie, les merveilleuses excellences de Dieu, et vit ainsi entièrement pour sa gloire. » Alors, on revise très rapidement les applications. Pouvons-nous dire honnêtement que nous rencontrons les prérequis spirituels pour faire de la théologie? Premièrement, sommes-nous des disciples de Jésus-Christ? Deuxièmement, sommes-nous complètement dépendants de l'œuvre médiatoriale de Christ? Troisièmement, cherchons-nous continuellement l'élimination par la prière? Quatrièmement, étudions-nous la parole avec tremblement? Cinquièmement, sommes-nous entièrement soumis à l'autorité de la parole? Sixièmement, cultivons-nous activement un appétit pour la parole de Dieu? Septièmement, sommes-nous disposés à souffrir pour la parole de Dieu? Huitièmement, est-ce que nous manifestons une vie de sanctification et d'obéissance? Neuvièmement, sommes-nous des membres fidèles d'une église locale fidèle? Et dixièmement, utilisons-nous la théologie comme un carburant pour la louange au Seigneur? Que le Seigneur nous donne de corriger ce qu'il y a à modifier et à améliorer dans tous ses prérequis pour sa plus grande gloire. Que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, soit béni, exalté et loué éternellement. Amen.